Très sincèrement, c'est une vraie joie d'être parmi vous. Ça fait longtemps où je n'ai pas eu la possibilité de m'associer aux réunions de la sœur, ce que j'ai beaucoup apprécié pendant notre premier séjour en France. Il y a déjà, je ne me souviens plus combien d'années, mais il y a longtemps quand même. Alors la question donc c'est le travail, et surtout dans une perspective biblique. Aujourd'hui, vous le savez bien, beaucoup de gens jettent un regard assez négatif sur le travail, qui constitue l'aspect prédominant de nos activités quotidiennes. Des jeunes et des adultes connaissent une profonde anxiété à cause de la crise économique. Pourrais-je trouver du travail à la fin de mes études? Pourrais-je garder mon emploi? Ou bien serais-je compté parmi le nombre toujours croissant des chômeurs? Depuis toujours, le travail a évoqué pour beaucoup de monde, comme vous l'avez bien dit, un sens de futilité, même de dégoût. Il signifie une dure obligation qui limite notre liberté personnelle. Il occasionne de la peine et de la fatigue, de l'ennui et de la dépression nerveuse. Son seul mérite dans l'esprit de beaucoup, c'est que le travail rapporte de l'argent nécessaire pour vivre au jour le jour. La vie humaine semble donc prise sans relâche dans ce train-train, métro, boulot, dodo, et on ne rêve que des vacances, puis de la retraite, et de préférence anticipée. Néanmoins, nous savons aussi que pour beaucoup d'autres personnes, le travail est une source d'accomplissement, de plaisir, même de joie, surtout quand il s'agit d'un service rendu aux autres. Offrir un secours médical, par exemple, ou faire des découvertes scientifiques. Puis beaucoup de monde trouve du plaisir tout simplement en accumulant de l'argent ou en exerçant un métier stimulant qui représente un défi ou un challenge, celui du procureur, par exemple, ou sapeur-pompier ou légionnaire. Bref, chez un grand nombre de personnes, la notion du travail évoque un sentiment de profonde ambivalence. Ce qui nous oblige à poser la question, où en est la vérité? Où en est la vérité? Le travail est-il une bénédiction qui donne un sens à la vie et qui permet à l'homme de s'épanouir selon ses talents? Ou bien est-il une malédiction, une conséquence du péché originel lorsque l'homme était chassé du jardin de paradis par le Dieu qui lui disait « À la sueur de ton visage, tu mangeras ton pain. » Voilà la question que je voudrais poser ce matin en essayant de clarifier certains malentendus concernant la perspective biblique sur le travail et en situant la notion du travail dans un contexte spirituel, voire eschatologique. Un premier malentendu qu'il faut éliminer, me semble-t-il, concerne l'origine du travail. L'origine du travail. En dépit de la parole de Dieu que je viens d'évoquer, déclarant que l'homme mangera son pain à la sueur de son front, il serait une erreur de concevoir le travail comme une punition imposée par Dieu à cause de la désobéissance d'Adam. Dès sa création, Dieu a placé l'homme dans le monde pour dominer la terre et pour la travailler. Ce n'était qu'après la chute que cette maîtrise de la terre est devenue un fardeau inéluctable. « Maudit soit le sol à cause de toi, dit Dieu à Adam. À force de peine, tu en tireras subsistance tous les jours de ta vie. » Genèse 3, 17. D'après ce récit, Genèse 2, 3, Adam mange du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et afin de l'empêcher de prendre du fruit de l'arbre de vie et demeurer éternellement en révolte contre Dieu, Dieu impose sur lui la mortalité, non pas comme punition, mais comme l'affirment certains pères de l'Église, n'est-ce pas, pour mettre terme à la période de la vie terrestre pendant laquelle l'homme sera éloigné du Créateur. celui qui l'aime, celui qui ne veut qu'entrer en une communion profonde, éternelle avec sa créature. Mais avec la mortalité, Dieu impose aussi sur l'homme le travail. Il cultivera le sol d'où il avait été tiré. Le lieu de ses origines, donc le sol, la terre, devient ainsi lieu de corvée. Et cela jusqu'à la fin de ses jours. Il travaillera à la sueur de son front jusqu'à ce qu'il retourne à la poussière d'où il est né. Le récit présage donc la période des corvées la plus pénible dans l'histoire du peuple. Lors de l'esclavage des Israélites en Égypte, le Pharaon leur impose la tâche quasiment impossible de fabriquer des briques avec la seule paille qu'ils pouvaient ramasser eux-mêmes. Cependant, puisque Dieu a pris du repos le septième jour de la création, il donne à son peuple l'ordre de faire pareil, afin qu'il se soulage des efforts nuisibles d'un travail sans répit, et qu'il trouve le repos nécessaire pour l'âme et pour le corps. Le Shabbat, ou Sabbat, sert désormais comme prémisse du repos éternel qui marquera l'époque messianique. Malgré le soulagement et la promesse accordée par le sabbat, plusieurs couches de la tradition vétérotestamentaire conservent une attitude foncièrement négative envers le travail. C'est surtout Coëlette ou l'Ecclésiaste, n'est-ce pas, qui insiste sur la vanité et la futilité de l'œuvre des mains des hommes. Quel profit y a-t-il pour l'homme de tout le travail qu'il fait sous le soleil, se demande-t-il. Qu'y a-t-il pour lui, c'est-à-dire pour l'homme, de tout son labeur, et les jours de peine, et les soucis des affaires, et les nuits d'insomnie? Cela aussi est vanité. Perspective pessimiste qui reflète néanmoins la souffrance d'Israël pendant le temps de leur esclavage. D'autres auteurs sacrés insisteront sur l'obligation du travail. Celui qui se relâche dans son travail est déjà le frère du destructeur, insistent les proverbes, tout en méprisant la paresse. Et saint Paul de renchérir dans ses exhortations aux Thessaloniciens, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus, n'est-ce pas? 2 Thessaloniciens 3. La perspective la plus normative présentée par l'Ancien Testament est néanmoins celle qui se trouve bien développée dans les livres de la sagesse. Jésus ben Sirac, par exemple, reconnaît la nécessité et la valeur des tâches, même difficiles. Ne déteste pas le travail pénible, ni le travail des champs créés par le Très-Haut. Même Coëlette affirmera, rien de bon pour l'homme, sinon de manger et de boire, de goûter le bonheur dans son travail. Donc, ambivalence de nouveau, n'est-ce pas? Et les rabbins continueront à prôner les bienfaits et l'importance du travail, surtout le travail manuel. Le Siracide, c'est-à-dire l'Ecclésiastique, en chapitre 38, va jusqu'à faire l'éloge des travaux manuels. Le forgeron, le potier, chacun exerçant son métier, est indispensable. Sans eux, il ne se bâtit pas de ville. Même s'ils ne sont pas admirés, ces ouvriers, même s'ils ne sont pas admirés comme le scribe et le sage qui siègent au conseil du peuple et accèdent aux places d'honneur. Par l'œuvre de leurs mains, dit ben Sirac, les ouvriers soutiennent la création et ceci est important, leur prière consiste dans le travail. Souvent la traduction est déformée, disant « leur prière concerne le métier ». Ce n'est pas ça du tout. La notion que l'auteur veut exprimer, c'est précisément celle-ci. Leur prière consiste dans leur travail. Travailler, c'est prier, et inversement. Ce qui est affirmé ici, c'est le point crucial que le vrai, le bon travail, qu'il soit de l'ouvrier ou de l'artiste, participe à l'œuvre de Dieu dans une synergie, une coopération qui accomplit l'économie divine pour le salut du monde. L'Ancien Testament peut donc s'exprimer de façon fort positive à l'égard du travail, surtout à l'égard de celui qui constitue un service rendu à Dieu et au nom de Dieu. Ceux qui embellissent le temple en tant que brocheurs, parfumeurs ou artistes en métal sont identifiés tout particulièrement par le travail. Lisez Exode 35-36, par exemple. Le roi Salomon embauche Hiram de Tyr pour exécuter tout travail de bronze sur le temple du Seigneur, Hiram étant plein d'habileté, d'adresse et de savoir, d'après le récit de 1er Roi, chapitre 7. De l'homme, le psaume vespéral que nous connaissons si bien, 103-104, ne dit qu'il sort pour son ouvrage faire son travail jusqu'au soir. Et des plantes fournies par Dieu, l'homme tire le pain de la terre et le vin qui réjouit son cœur. Aussi participe-t-il à l'œuvre de Dieu, en réponse au commandement original de dominer la terre et la soumettre au Créateur en offrande de louanges et d'actions de grâce. En revanche, Dieu lui-même exerce un travail étrange, insolite, en combattant les Israélites par moyen de leurs ennemis, les Assyriens, Isaïe 28. Ainsi, il rend son jugement contre l'infidélité du peuple. L'œuvre principale du Seigneur est néanmoins en faveur de ce peuple rebelle, œuvre de salut, telle qu'elle est proclamée par le prophète Osée, chapitre 12 par exemple, et suivant. En l'an 520 avant Jésus-Christ, l'oracle du Seigneur transmis par le prophète Agée fait appel au gouverneur de Judée, Zorobabel, au grand prêtre Josué et à tout le peuple, pour qu'ils se préparent à la reconstruction du temple dans le temps messianique. « Courage, tout peuple du pays, dit le Seigneur, au travail, car je suis avec vous. » L'espérance messianique sera accomplie précisément par le travail dévoué du peuple, peuple entier, afin de restaurer la maison de Dieu dans toute sa gloire originelle. Travail qui sera réalisé par la présence et par la force divine. Dans la perspective de l'Ancien Testament, donc, le travail de l'homme devient l'œuvre de Dieu dans la mesure où ce travail, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa noblesse aux yeux du monde, dans la mesure où ce travail est offert au Seigneur comme un véritable sacrifice de louange. Offrande des mains de l'homme pour son propre bienfait, mais dont le sens profond se révèle dans une synergie avec le Dieu qui œuvre sans cesse pour le salut de ceux qui portent sa divine image. Alors, le Nouveau Testament est beaucoup plus réticent au sujet du travail que ne sont les livres sacrés d'Israël. Cependant, l'importance et les exigences de l'œuvre du Christ et de la mission apostolique apparaissent en filigrane à travers les évangiles, les épîtres et surtout les actes des apôtres. Jésus lui-même est identifié précisément par son métier, n'est-ce pas ? N'est-ce pas le charpentier, demandent les gens en Marc 6, Matthieu 13, dans la parabole des deux fils en Matthieu 21. C'est celui qui, malgré son premier refus, sort pour travailler les vignes. C'est celui-là qui fait la volonté de son Père et reçoit la bénédiction de celui-ci. L'apôtre Paul se fait gloire du fait qu'il subvient à ses propres besoins, ainsi qu'aux besoins de ses compagnons, en fabriquant des tentes. Sa plus rude besogne pourtant, c'est d'assumer sa mission apostolique pour proclamer l'évangile du Christ, mission qui entraînera naufrage, faim, flagellation, lapidation. Ainsi, Paul fait appel à ses collaborateurs d'œuvrer avec ceux qui, d'eux-mêmes, se sont mis au service des chrétiens de Corinthe. Rangez-vous, dit-il, sous de tels hommes, et sous quiconque travaille et peine avec eux. 1 Corinthiens 16:16. Le travail dont il est question dans le Nouveau Testament est essentiellement celui qui fait avancer le règne de Dieu sur la terre par moyen de l'évangélisation et de l'aide offerte gratuitement à ceux qui se trouvent dans le besoin. C'est-à-dire, le travail vise avant tout l'implantation et la croissance des communautés chrétiennes, l'Église. C'est dans cette perspective que le travail des hommes et des femmes croyants se confond avec l'œuvre de Dieu. En Jean 6:28, la foule interroge Jésus : Que faut-il faire que nous fassions afin ergazomathata ergatoutheou, c'est-à-dire travailler au travail, n'est-ce pas, de Dieu. En grec, comme dans la plupart des langues, il s'agit de la répétition du même mot, ergon, traduit travail. Si plusieurs mots existent dans une langue, c'est d'habitude pour distinguer les différents ordres du travail ou distinguer les travaux normaux des durs. Rabota et trud, par exemple, ou bien work, labor, job, en anglais. Certes, ces mots peuvent être utilisés comme synonymes. Normalement, la distinction entre eux concerne l'intensité ou la dureté de la tâche en question. Il s'agit d'une différence de quantité plutôt que de qualité. Le français, par contre, a plus que d'autres langues, me semble-t-il, permet une distinction de qualité par l'emploi des mots « travail » et « œuvre ». Et ceci justifie la traduction de Jean 6:28 que nous trouvons et dans la Bible de Jérusalem et dans la Tobe. Que nous faut-il faire pour travailler aux œuvres de Dieu? La foule cherche une besogne à accomplir. Jésus répond que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui qui l'a envoyé. Aux activités manuelles ou intellectuelles, Jésus substitue la foi, œuvre spirituelle qui ouvre le cœur de l'homme, ouvre le cœur à la grâce qui mène à la vie éternelle. Et ainsi, en Jean 9:3-5, Jésus affirme qu'il faut travailler aux œuvres de Dieu pendant qu'il fait jour. Car, dit-il, la nuit vient où personne ne peut travailler, nuit de la passion du Fils de Dieu et de la persécution que subiront ses disciples. Si pour l'évangéliste Jean, l'œuvre de Dieu est la foi en Jésus, chez Paul, elle consiste en la construction de l'Église. Prenons comme illustration un passage difficile et souvent mal traduit, 1 Corinthiens 3:9. L'apôtre y affirme « Nous sommes synergitéou », expression qui peut être rendue « les coopérateurs ou les communs ouvriers de Dieu », comme par exemple la Bible de Jérusalem. La version de 1900 de Hugues Ultramar et celle de Louis II la traduit « ouvrier avec Dieu ». La Tobe, par contre, et peut-être sous influence protestante, la Tobe, par contre, nie explicitement qu'il s'agit d'une coopération ou collaboration entre Dieu et l'homme. En conséquence, la Tobe rend la phrase « Nous travaillons ensemble à l'œuvre de Dieu, de sorte que la synergie est limitée aux seuls hommes, en l'occurrence entre Apollos et Paul. » La question, je dirais, a une importance toute particulière pour nous les orthodoxes, pour qui la synergie entre Dieu et l'homme est le moyen principal par lequel la grâce divine est intériorisée chez les fidèles et répandu à travers le monde. Selon Éphésiens 2:9-10, le salut ne vient pas des hommes, il est un don de Dieu. Pourtant, bien que nous soyons nous-mêmes l'ouvrage de Dieu, nous avons été créés dans le Christ Jésus, dit l'Épître, nous avons été créés dans le Christ Jésus en vue des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que nous les pratiquions. Notre vie est un don reçu de la main du Créateur. Néanmoins, afin que son œuvre créatrice s'accomplisse en nous, afin que nous puissions accéder au salut, nous devons assumer les bonnes œuvres que Dieu a préparées pour nous, ce qui nous permettra de collaborer avec lui à l'œuvre de notre salut et du salut du monde. En 1 Corinthiens 3, l'apôtre déclare concernant la fondation de l'Église locale, « Moi, j'ai planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui donnait la croissance. » Et encore, il affirme, « J'ai posé le fondement, et il ajoute, « De fondement, en effet, nul n'en peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, à savoir Jésus-Christ. » Le sens en est clair. Travailler à l'œuvre de Dieu pour l'édification de l'Église, c'est œuvrer avec Dieu, par Dieu et en Dieu. C'est collaborer avec lui afin que tout soit édifié sur l'unique fondement qui est Jésus-Christ. Il s'agit bel et bien d'une synergie, une coopération entre l'homme et Dieu et non seulement entre les hommes. Et ce fait devrait être reflété par la traduction de 1 Corinthiens 3, 9. L'apôtre déclare, tout en collaborant avec Apollos et d'autres fidèles de la communauté de foi, qu'il s'est engagé dans une coopération avec Dieu, une véritable synergie, l'unique moyen par lequel l'Église du Christ puisse se construire. La notion du travail comme coopération avec Dieu, en vue de l'accomplissement de son œuvre pour le salut du monde, transpose le travail sur un autre registre, sur un niveau essentiellement spirituel. Le terme spirituel, d'ailleurs, fortement abusé aujourd'hui, ne signifie rien d'autre que tous ceux qui se trouvent sous la direction de l'Esprit Saint. Notre travail assume une qualité vraiment spirituelle, dans la mesure où il se soumet à l'inspiration de l'Esprit pour servir l'économie divine. Aussi représente-t-il une véritable synergie, une œuvre accomplie dans l'Esprit et par la puissance de l'Esprit. Dire ceci, c'est affirmer également que tout travail, assumé librement, avec dévouement et conviction, comporte aussi un aspect eschatologique. On a souvent remarqué à l'égard du récit de Genèse chapitre 1 que l'eschaton, la fin ultime, est inscrit dans la création dès le commencement. La création elle-même est téléologique, progressant continuellement vers son telos, son accomplissement, lorsque Dieu sera tout en tous. La notion du travail en Israël et dans le temps de l'Église primitive suit cette même progression. Conçu d'abord comme fruit amer du péché originel, non pas directement comme punition, mais comme le seul moyen qui permet à l'homme de se nourrir et de se maintenir dans un monde déchu, la notion du travail devient de plus en plus élevée. Progressivement, dans l'histoire d'Israël, le travail le plus noble et le plus important vise la reconstruction du temple, travail qui rejoint l'œuvre de Dieu pour le salut de son monde. Enfin, le travail humain et l'œuvre divine se confondent dans les écrits apostoliques, de sorte que le vrai ergon, œuvre définitive et essentielle, devient la foi. La foi, la confession intériorisée et vécue. Confession du Christ comme Fils éternel du Père. C'est cette transformation de l'image du travail en véritable synergie avec Dieu qui permet que n'importe quelle tâche n'importe quel métier peut être exercé à la gloire de Dieu et à l'accomplissement de l'économie de salut. Moyennant sa dimension eschatologique, tout travail peut devenir donc œuvre d'amour qui reflète l'amour de Dieu pour chacun de ses enfants. C'est dans cette perspective que saint Paul peut faire aux Corinthiens une exhortation qui, pour beaucoup de monde aujourd'hui, pose question, pose problème. En 1 Corinthiens chapitre 7, au verset 20 à 24, saint Paul dit que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé, c'est-à-dire appelé à la foi. Que chacun demeure dans la condition où il se trouvait quand il a été appelé. Alors cet ordre signifie-t-il que l'on doit demeurer toujours dans un emploi pénible, dépourvu de sens et de valeur? Veut-il dire que celui qui se trouve en chômage ne devrait pas chercher un nouveau travail? Autant de questions qui s'imposent aujourd'hui étant donné les conditions économiques qui menacent tant de personnes. Il est important de poser de telles questions dans un contexte comme le nôtre, surtout pour clarifier encore certains malentendus. Si l'apôtre parle ici comme il le fait, c'est à cause de la situation historique et sociologique aussi bien que spirituelle dans laquelle les Corinthiens se trouvent. Premièrement, il ne faut pas oublier que Paul lui-même, avec l'ensemble des premiers chrétiens, acceptait comme élément fondamental de sa foi que le Christ reviendrait en gloire dans un très proche avenir. Dans un très proche avenir. Normalement avant que les gens commencent à meurtre, les chrétiens commencent à meurtre, n'est-ce pas? C'est ça la crise qui a éclaté chez les Thessaloniciens, où certains sont morts avant que le Christ ne revienne. Au cours des siècles, l'attente et même le désir de voir se réaliser cet élément de la foi chrétienne se sont tellement atténués que la notion de la parousie du Christ a été reléguée à la catégorie des mythes dans le sens populaire du mot, c'est-à-dire des légendes pieuses. On n'y croit pratiquement plus, même en bon chrétien, n'est-ce pas? Pour la première génération des fidèles, par contre, cette attente, cette conviction que Jésus reviendrait bientôt, entouré de myriades d'anges pour établir le règne de Dieu, fut plus vivante, plus puissante que tout autre. Rien d'autre n'a d'importance dans la vie terrestre, y compris le travail des uns et des autres. Voilà pourquoi les chrétiens ont pu recevoir cette exhortation telle que saint Paul a voulu la transmettre. Quelles que soient les conditions du travail et d'autres dans lesquelles vous vous trouvez, Jésus est en train de réaliser ce que nous appelons dans la liturgie de l'Église son second et glorieux nouvel avènement. Le royaume est proche et la seule œuvre qui compte, c'est de croire en celui qui vient et de concrétiser cette conviction par des actes de repentir et de charité. Puis il faut dire aussi à l'égard de cette exhortation de l'apôtre qu'il la situe dans un contexte aussi bien social que spirituel, dans lequel les fidèles se sentent libres de tout esclavage, ce qui représentait souvent leur condition d'autrefois, libérés de l'esclavage, donc libérés de toute corvée obligatoire, puisqu'ils sont désormais, comme le dit l'apôtre, ils sont désormais des affranchis du Seigneur. Tous, nous sommes des affranchis du Seigneur. Par la vie en Christ, actualisée par le baptême et la chrismation, par la nouvelle naissance et l'effusion de l'Esprit, le chrétien connaît désormais le paradoxe ou l'antinomie fondamentale de l'existence chrétienne. Il est à la fois esclave, doulos du Christ, et homme libre, affranchi de tout esclavage, par celui qui, pour accomplir cette œuvre libératrice, s'est soumis au supplice de la croix. À l'instar de saint Paul, le chrétien accomplit le travail pour le royaume en commençant par lui-même. Soyez mes imitateurs, dit l'apôtre, comme je le suis moi-même du Christ. 1 Corinthiens 11. Imitateur en premier lieu par la cèse, le combat spirituel qui mène par des étapes philokaliques de la purification à l'illumination pour aboutir à ce qu'on appelle avec tant d'audace la déification. Un tel langage est étranger au Nouveau Testament, c'est vrai. Pourtant, l'idée de progression spirituelle par l'acquisition des vertus en une lutte implacable contre la tentation et le péché se situe au cœur même du témoignage évangélique. Toute vraie synergie avec Dieu commence forcément par un travail sur nous-mêmes. Voilà le vrai sens du travail, placé dans un cadre spirituel eschatologique. Il s'agit d'une praxis qui nous permet de cheminer vers la théoria, la vision inspirée de l'Esprit, vision qui aboutit à la véritable participation à la vie de Dieu par les énergies divines que les saints-pères appellent la théosis ou la déification. À l'époque actuelle, il est vrai que l'image du travail a été fortement déformée. La plupart d'entre nous sont en proie à ce que l'on appelle le workaholism, chez nous de toute façon, c'est-à-dire l'acharnement au travail, qui transforme n'importe quelle œuvre en boulot et fait de l'ouvrier un esclave. Au lieu de nous libérer, le travail a tendance à nous enfermer dans une prison de perfectionnisme, de stress et d'ennui. Le résultat, on est trop souvent un niveau de détresse insupportable qui provoque des maladies mentales, des divorces, et comme cela s'est produit tout récemment à l'armée et dans les entreprises, le suicide. L'ambiance sociale dans laquelle nous vivons aujourd'hui nous encourage à nous identifier non pas par les qualités personnelles de notre vie, mais par notre profession, notre métier et le standing que cela représente sur les plans social et économique. C'est un ami juif qui m'a raconté la plaisanterie concernant la mère juive qui, au bord de l'océan, crie à ceux qui se trouvent sur la plage « au secours, mon fils, le neurochirurgien, est en train de noyer, n'est-ce pas ?» Fierté dans le travail qui, sous pression sociale, devient orgueil. En conclusion, il faut insister sur le fait que si nous le voulons, encore une fois, n'importe quel travail, n'importe quelle initiative peut être transformé en œuvre de Dieu. L'essentiel, c'est d'accepter la vocation que Dieu nous accorde et de rendre à Dieu ses fruits, à sa gloire et pour les bienfaits et le salut des autres. Que nous soyons reconnus par le monde, admirés par les foules, ou récompensés pour notre labeur par des richesses pécuniaires, tout cela n'a aucune importance pour ceux qui œuvrent, non pas pour ceux qui, demain, seront jetés au feu de l'oubli ou de la destruction, mais pour ceux qui demeurent en trésor éternel. Le vrai travail que tous nous sommes invités à assumer et donc celui qui participe à l'œuvre de Dieu pour notre salut et pour le salut de son peuple. Et encore, cela peut être n'importe quel travail, n'importe quel métier, même la plus rude besogne que nous puissions imaginer, dans les camps de concentration par exemple, ou dans les mines ou les égouts urbains. Car, et ceci est le plus important me semble-t-il, tout travail est noble, s'il est fait à la gloire de Dieu. Encore une fois, tout travail est noble, n'importe quel, s'il est réalisé à la gloire de Dieu. Si par une attitude de prière qui permet à Dieu de bénir l'œuvre de nos mains, nous pouvons lui offrir le fruit de nos efforts en sacrifice de louange et signe d'action de grâce, alors Dieu peut lui-même assumer notre travail et le transfigurer en un service d'amour, élément indispensable à la synergie qui constitue l'œuvre divine. Mon Père travaille toujours, dit Jésus, et moi aussi je travaille, Jean 5. La plus grande grâce de notre vie serait de participer avec eux, Père et Fils, au travail qui vise le salut de ce monde, ce pauvre monde. Peut-être que le dernier mot devrait être celui-ci. Dans un monde où l'emploi est constamment menacé et les soucis financiers se font ressentir à tout moment, il est important d'écouter encore une fois les paroles du Christ, paroles que nous connaissons tous si bien, paroles qui s'adressent à nous, tout autant qu'à ceux qui entouraient Jésus sur la montagne en Galilée. Cherchez d'abord le royaume de Dieu, cherchez d'abord le royaume et sa justice, et tout ce dont vous avez besoin, tout ce dont vous avez besoin, vous sera donné par surcroît. Voilà, je vous remercie.